inquiétante. La semaine dernière, 316 migrants sont arrivés à Lampedusa, située entre la Tunisie et l'Italie. Les gardes-côtes italiens ont secouru 7 bateaux et une barque en bois avec des Marocains, des Tunisiens et des Syriens. S'adressant à la presse lors d'une visite en Sicile, Hans Leidsen, directeur de l'Agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes Frontex, a déclaré que les attentes des partenariats sont grandes.
De point de vue professionnel, je pense qu'il est important d'essayer de faire tout ce que nous pouvons et ce qui est possible dans les limites autorisées pour voir comment nous pouvons empêcher les gens de partir.
Le mois dernier, à la mi-juin, le naufrage d'une embarcation de migrants au large du Péloponnèse, une péninsule grecque, a suscité beaucoup d'indignation quant au rôle des gardes-côtes. 82 corps avaient été retrouvés. Ce drame pourrait avoir fait 600 morts selon les autorités européennes. Le naufrage de ce chalutier parti de Libye est considéré comme l'un des pires drames de ce type en Méditerranée. Une enquête internationale indépendante doit bientôt s'ouvrir.
Merci beaucoup, Dili. Place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela. À Rouen, en France, nous avons Brice Arsène-Manco. Vous êtes sociologue, co-directeur du CARIA, Centre canadien de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique, et également enseignant à l'Université de Rouen, Normandie. Et à Maroua, au Cameroun, nous avons Abdelrahman Diop, chef de mission de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations au Cameroun. Nous avons certainement tout à l'heure un invité depuis Dakar. Alors je vais démarrer avec vous, Brice. Ces drames en mer et les mauvais traitements dont sont victimes les candidats à l'immigration vers l'Europe sont au devant de l'actualité dernièrement. Mais pourquoi cela ne décourage pas ces jeunes à tenter l'aventure ?
Bien, merci. Nous sommes là devant une situation ubuesque. Parce qu'en même temps que l'Union européenne essaye de se contenter d'un certain nombre de mesures, c'est-à-dire que je lis là parmi les mesures que l'Union européenne souhaite traiter les causes profondes de l'immigration des jeunes. Et déjà, je voudrais rappeler le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire que celui qui fait que ces jeunes partent malgré tout et à tous les prix. De quoi s'agit-il ? En fait, quand on voit le contexte général, le niveau de la mer qui baisse, la paupérisation d'un certain nombre de nos populations, les questions liées à la gouvernance de nos États, la lutte, le terrorisme et les conflits interethniques dans un certain nombre d'États, bref, tout le désordre que nous constatons en Afrique peut amener les jeunes à un désespoir. Et ce désespoir-là les amène à tous les prix pour prendre justement soit des bateaux de fortune ou prendre la décision de partir. Il s'agit là, en fait, pour la plupart d'entre eux, si on fait une petite sociologie de cette population migrante, il s'agit des jeunes, souvent non instruits, non formés, non qualifiés, bref, qui accumulent un certain nombre de handicaps et qui perçoivent encore l'Europe comme l'Eldorado, alors que, de plus en plus, ce désordre-là qui s'opère dans nos États est la cause profonde.
D'accord. On pourra revenir tout à l'heure sur l'analyse sociologique. Alors, Abdelrahman Diop, face à la recrudescence des tentatives de traverser par la mer, mais également les expulsions aux frontières effectuées aussi bien par la Tunisie que par l'Algérie, comment l'OIM essaie un peu de faire face à tous ces fronts à la fois ?
Merci beaucoup pour la question. C'est une question qui met en action des États. Il faut le garder à l'esprit, il faut aussi garder à l'esprit le caractère holistique du problème qui est posé. L'OIM intervient à un double niveau, pour ne pas dire un triple niveau. Premièrement, c'est les actions de prévention qu'il y a dans les pays de départ qui sont connues. Et donc, c'est vraiment des activités de sensibilisation, des campagnes pour justement informer sur les risques qu'il y a sur ces différentes routes. La deuxième série d'activités, c'est la réponse. Et ces réponses-là sont à la fois à court terme, donc c'est de d'apporter l'assistance humanitaire à ces personnes en détresse, où qu'elles se trouvent, parce que pour nous, justement, les questions de dignité ne sont pas à négocier, quel que soit le statut migratoire d'une personne, quelle que soit sa race ou son genre. Et le troisième niveau, qui est peut-être le niveau aussi important, c'est de créer des cadres de discussion, de concertation entre les États. Il vous souviendra qu'en décembre 2018, nous avons accompagné les États membres à adopter un pacte mondial pour les migrations, pour des migrations plus ordonnées et régulières. Et donc, à partir de là, c'est aussi des espaces de dialogue inter-États qui sont mis en œuvre pour justement permettre plus de coopération dans ce secteur.
Est-ce qu'on peut dire que vos actions sont limitées par le, disons, par le politique, dans une certaine mesure?
On ne peut pas traiter de cette question sans le politique. Il va sans dire. Et donc, le pacte justement pour les migrations parle d'actions holistiques qui fait intervenir les États, mais aussi l'ensemble de la société. Donc, on travaille beaucoup avec les ONG et autres organisations de la société civile pour répondre à ces problématiques. Donc, il faut à la fois un niveau opérationnel, mais aussi un niveau politique, et les deux sont intrinsèquement liés.
D'accord. Alors, Brice Mankou, politiquement, comment est-ce qu'on peut expliquer cela, tous ces jeunes qui veulent quitter le continent à tout prix, comme vous le disiez tantôt, l'explication, elle est plus politique ou sociologique?
Bien. Moi, j'ai épinglé lors de mes recherches trois phénomènes ou trois facteurs qui peuvent expliquer cela. Le premier facteur, c'est un facteur effectivement économique, puisqu'on sait très bien que le niveau de vie des populations, des populations notamment dans le continent, baisse. On voit très bien qu'il y a une attractivité des économies européennes vis-à-vis des économies africaines. On voit très bien que le phénomène de répulsion-attraction s'opère par rapport à cette question de la gouvernance économique de nos États. Il y a un deuxième phénomène qui est celui des facteurs géopolitiques. Les facteurs géopolitiques, c'est aussi un peu les conflits. Et les conflits, c'est les conflits interethniques. C'est aujourd'hui également la lutte contre le terrorisme avec tout ce que cela comporte de désordre, d'insécurité dans nos États. Troisième phénomène, c'est le poids démographique effectivement de l'Afrique. On dit très bien que l'Afrique est un continent jeune avec une population jeune. Et si je repars sur les facteurs économiques et les facteurs géopolitiques, nos États n'arrivent pas à donner des perspectives à cette jeunesse, ce qui explique que les jeunes trouvent dans la mer une seconde voie qui devient finalement un cimetière flottant, comme je l'ai dit dans un de mes ouvrages. Aujourd'hui, la Méditerranée devient un cimetière flottant à cause de la conjugaison de ces trois facteurs économiques, politiques par la géopolitique également, et démographique, parce qu'on n'arrive pas à absorber toute cette masse-là de population qui, en 2050, reste quand même une population assez jeune.
Alors, nous avons en ligne de Dakar Alune Fall. Il est le président de l'association Sama Chance, créée pour sensibiliser à la migration irrégulière, favoriser également le retour et la réinsertion sociale des migrants. Alors, Alune Fall, la semaine dernière, une pirogue a chaviré au large de Saint-Louis au Sénégal et on fait état de 14 à 16 morts et plusieurs blessés. Quelques jours plus tôt, il y avait cette polémique sur les 300 candidats à l'immigration dont la pirogue avait disparu en mer. Pourquoi la voie de l'Atlantique est redevenue tout d'un coup très prisée ces derniers temps?
Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par présenter mes condoléances les plus adressées et attristées aux familles des défunts. Et par là, je dirais que la recrudescence de l'immigration irrégulière peut s'expliquer par plusieurs raisons. Récemment, nous avons vu les remous politiques qui secouent la majeure partie des pays du continent africain, surtout du côté du Sénégal, la Mali, le Burkina, les pays limitrophes. Donc, ça crée maintenant une chose nouvelle. À un moment donné, il y avait une accalmie. Parce que les gens, pour ce qui concerne le Sénégal, c'était un pays qui était très stable sur le plan démocratique, où les gens pouvaient s'exprimer librement. Et nous avons vu à un certain moment, il y a une restriction des libertés individuelles et collectives. Également, ce n'est pas le seul facteur qui peut expliquer tout ça. Nous avons vu également au niveau du Sénégal que...
Il y avait un renforcement des contrôles aussi en mer.
Non, j'y viendrai.
On peut aller, on va aller vite, malheureusement. On est obligé d'aller un peu plus vite.
Les forces de contrôle en mer. Mais le problème principal que les Sénégalais rencontrent au niveau de la migration irrégulière, c'est que pour lutter contre cela, déjà, c'est un être social qui est là depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Donc, l'être social, c'est un être qui a envie de bouger, de migrer. Et c'est consacré par la déclaration des lois de l'homme, beaucoup de traités également. Mais là où la bas blesse dans nos pays africains, à cause de la politique d'endiguement de l'Europe, nous sommes confrontés à un refus de visa systématique. D'accord. Souvent, les gens n'ont pas une possibilité de migrer légalement.
Mmh. D'accord. Alors,
la possibilité d'aller et de venir, on peut s'attendre à une baisse de la migration. Actuellement, il y a un autre phénomène qui est en train de gangréner le pays. Au début, les gens avaient une difficulté pour obtenir le visa. Maintenant, les gens ont une difficulté pour obtenir un rendez-vous.
D'accord. Merci,
Alain.
Alors, avant d'aller rapidement aux commentaires Facebook, peut-être en une minute, Abdelrahman Diop, puisque vous couvrez un peu le Cameroun, que disent les données vraiment sur les migrants originaires d'Afrique centrale ou du Cameroun au Maghreb ou qui ont plutôt besoin d'assistance dans les conditions actuelles?
Rapidement, juste préciser qu'en plus de la prévention et du cadre que j'ai mentionné, il y a aussi l'aide au retour volontaire et à la réintégration que Guillaume organise. Et ça me permet d'embrayer sur la question des données pour dire que c'est une question délicate. On manque de chiffres, on manque de chiffres exacts. Je m'appuie sur nos opérations d'aide au retour volontaire pour juste dire que de 2017 à 2022, dans un pays comme le Cameroun, on a assisté précisément 5598 personnes à rentrer de façon volontaire. Là, depuis deux mois, depuis le mois d'avril, depuis la Tunisie, nous avons accompagné 115 Camerounais à retourner au Cameroun.
D'accord.
Donc, ce n'est que ça qu'on a de façon assez complète, mais l'objectif 1 du pacte justement parle des données et c'est un problème.
D'accord. Alors voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Alphonse Mboaké à Kinshasa qui nous dit qu'une certaine opinion dit que les pays occidentaux doivent alléger les conditions d'octroi des visas en vue de faciliter l'entrée des migrants en Europe et en Amérique. Mais moi, je trouve que l'Afrique a tout intérêt à améliorer les conditions de vie dans ces pays pour garder ses citoyens sur place. Lasgasek est à Dakar. Il écrit « Les jeunes qui empruntent les pirogues pour se rendre en Europe sont déçus. Au Sénégal, par exemple, plus de 600 000 jeunes s'activent dans le secteur de la pêche. Cependant, ils peinent à trouver le poisson du fait de la surexploitation des ressources halieutiques par des bateaux-usines de l'Union européenne et ceux des Asiatiques, notamment les Chinois. » Enfin, Yao Marcelin Kofi à Abidjan nous dit que les Africains subsahariens candidats à l'immigration irrégulière reçoivent un traitement inhumain en Tunisie. Vivement que le partenariat entre l'Union européenne et la Tunisie aboutisse au renforcement des contrôles aux frontières et le retour des migrants illégaux dans de bonnes conditions pour limiter les drames de l'immigration. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
À la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Rouen en France, Brice Arsène Mankou, sociologue, co-directeur du CARIA, Centre canadien de recherche interdisciplinaire sur l'Afrique, également enseignant à l'Université de Rouen en Normandie. À Maroua au Cameroun, Abdelrahman Diop, chef de mission de l'OIM au Cameroun, et à Dakar, Alun Fall, président de l'association Sama Chance, créée donc pour sensibiliser à la migration irrégulière et favoriser le retour et la réinsertion sociale des migrants. Alors Brice Mankou, pour les Européens, l'immigration irrégulière n'est-elle pas un peu perçue à la fois comme une question d'ordre sécuritaire, mais aussi une nécessité face au vieillissement de la population? Comment est-ce que c'est perçu de l'autre côté?
Bien. Je voudrais justement citer effectivement le cas de l'Allemagne qui fait un appel d'air. Un certain nombre de chercheurs via la fondation Humboldt et les Allemands ont un problème de natalité. Et ce problème aussi se déporte en Amérique du Nord avec le Canada, que je connais très bien, où le pays est grand, mais sous-peuplé et qui régulièrement organise comme ça des opérations pour faire appel à des migrants, notamment des subsahariens, pour occuper des secteurs stratégiques. Alors, l'immigration, on pourrait dire, là tout à l'heure j'ai suivi un peu les uns les autres, on pourrait en tout cas cristalliser le débat en se disant que l'immigration d'aujourd'hui est liée à la question de la gouvernance de nos États, la gouvernance économique, la gouvernance sociale et la gouvernance simplement d'un certain nombre de ponts de nos pays. Une fois qu'on l'a dit, il y a en Europe aussi, grâce à ce que l'Union européenne voudrait faire, c'est-à-dire que traiter les causes profondes de l'immigration, revient effectivement à se dire, tiens, plutôt que de fixer des quotas, comme on le fixerait pour les poissons, faudrait plutôt que nos pays travaillent avec la notion de co-développement. Si je cite la question de la gouvernance, c'est parce que cette question est centrale. Et le co-développement est une des réponses sur lesquelles on pourrait travailler entre l'État européen et l'État en Afrique. D'accord. Le co-développement, c'est quoi? C'est permettre, par exemple, comme le fait l'OIM, d'avoir des projets de retour d'un certain nombre de migrants. Parce qu'au fond, même quand on lève la question des frontières, c'est pas toute l'Afrique qui va se déporter en Europe.
D'accord.
Éviter effectivement cette question fantasmagorique et partir du simple fait que de plus en plus des gens, par rapport au capital humain, ont envie d'expérimenter des choses en Europe. Parce que c'est l'Europe qui transforme nos matières premières et pouvoir être utile dans nos pays. Et donc leur permettre cette passerelle-là me semble intéressante.
D'accord. Justement, Abdelrahman Diop, en termes de solution, l'OIM est-elle pour le contrôle renforcé aux frontières ou sinon, comment résoudre cette crise alors?
Je pense que la crise est multidimensionnelle et c'est ça qui est il est fondamental de garder ça à l'esprit. Et même les catégories de populations qu'on assiste, il faut se dire qu'elles ne sont pas homogènes. Il y a des cas plus vulnérables que d'autres. Il y a des victimes de traite, il y a des mineurs non accompagnés. Donc, penser à un prisme unique pour apprécier cette question nous conduirait malheureusement à échouer en termes de solutions. Les contrôles aux frontières sont une piste. Encore une fois, nous sommes en face d'États souverains et on ne peut pas leur dénuyer ce droit qui est leur, tout simplement. Mais à côté de cela, ce que nous, on promeut vraiment, c'est l'aide au retour volontaire et à la réintégration. De faire en sorte que les personnes qui sont en vulnérabilité aient la possibilité de choisir, face à l'ensemble des vulnérabilités qui sont les leurs, de retourner dans leur pays de départ. Mais nous demandons en même temps ce que, lorsque nous faisons les retours volontaires, que ce soit accompagné aussi d'un accompagnement à la réintégration. Tout à l'heure, notre cher co-panéliste a mentionné les raisons du départ, parmi lesquelles se retrouve justement la paupérisation croissante des populations et le manque d'espoir pour les jeunes. Et justement, à travers l'entrepreneuriat, nous sommes convaincus que nous avons là une piste assez concrète et solide de solution à ce phénomène de migration irrégulière vers l'Europe ou encore ailleurs. Je dirais un dernier mot pour dire, s'il vous plaît, que la migration intra-africaine est des fois beaucoup plus supérieure à celle qui va vers l'Europe, dont on ne parle pas malheureusement suffisamment. Et c'est aussi une solution à promouvoir cette migration circulaire sur le continent, dans les régions. C'est aussi une solution à laquelle l'OIM croit fermement.
Tout à fait. Mais pour revenir un peu sur la question de la réinsertion, peut-être à l'UNFAL, vous êtes bien placé pour vous exprimer sur cela. On parle beaucoup de sensibilisation sur les dangers de l'immigration irrégulière, mais vous travaillez aussi sur la réinsertion pour ceux qui décident de rentrer ou qui ont été forcés de rentrer. Mais on voit que beaucoup retentent l'expérience de l'immigration clandestine. Cela veut-il dire que les politiques de réinsertion ont échoué à l'UNE?
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, Sama Chance travaille beaucoup dans l'aide au retour volontaire, à la réinsertion et à la réintégration. De notre côté, on ne peut pas dire que oui, parce que l'ensemble des personnes que nous avons reçues, parce que nous avons ouvert notre centre qui a fonctionné pendant un an, et pour l'ensemble des personnes que nous avons reçues, qui ont été accompagnées sur le plan psychosocial et qui ont été aidées à travers nos partenaires que sont la GIZ ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, nous avons pu les insérer dans le tissu économique. Et nous avons vu que ces personnes-là n'ont pas tenté encore l'expérience. Donc la chance que nous avons eue déjà, il y a un aspect très important que les gens ne prennent pas en compte dans le retour et dans la réintégration, c'est le volet psychosocial. Parce que comme l'a souligné quelqu'un, l'ensemble des personnes qui reviennent, soit qui sont forcés ou qui viennent, ne sont pas préparés. Nous, on avait l'habitude de dire aux gens, il faudrait qu'en amont, au niveau de l'Allemagne principalement où nous travaillons, avant d'étendre le projet dans le reste de l'Europe, il faudrait que les gens fassent un coaching, que la personne aussi puisse avoir les opportunités qui existent au Sénégal avant de rentrer. Maintenant, une fois rentré, le premier aspect qu'il fallait prendre en compte, que nous avons réussi, parce que nous avions un centre d'accueil, on prend le migrant de retour, on l'amène dans notre centre, il est logé, nourri. Et pendant ce temps-là, on cherche un psychologue, un thérapeute qui va l'accompagner sur le plan social. Et une fois que ce volet-là est réussi, comme j'ai l'habitude de le dire, la première phase qu'il faut réussir, c'est l'accompagnement psychosocial. Si vous voulez que l'individu puisse s'intégrer dans la société et puisse reprendre ses activités, il faut que cet aspect-là soit pris en compte dans toute la dimension de la migration et du retour. Fort heureusement, nous avions des partenaires qui étaient à nos côtés et qui nous aidaient à réintégrer ces migrants. Et avec le FI, par exemple, je donne un cas concret. Quelqu'un qui était dans le domaine de l'informatique, qui a fait 18 ans en Allemagne, mais quand tu es venu avec l'aide de l'OFI, il a pu ouvrir sa boutique. Il travaille, donc il n'est pas tenté par un retour en Allemagne.
D'accord. Alors, nous avons peut-être une minute, malheureusement, avant la fin de l'émission. Brice Manco, juste rappeler rapidement cette étude de l'African Youth Survey réalisée en 2022 dans 15 pays, où 44% des jeunes disent vouloir quitter le continent pour des raisons économiques, contre 12% seulement pour des raisons politiques. Qu'est-ce que cela vous dit en quelques secondes?
C'est un chiffre révélateur.
1% pour des raisons religieuses. Donc c'est carrément pour des raisons économiques.
Voilà, c'est un chiffre révélateur qui nous révèle que l'urgence économique est la première des causes, le premier facteur en tout cas, qui fait bouger les gens. Parce que quand on a faim, on n'a pas d'électricité, quand on ne peut pas se mouvoir dans un pays à cause des conflits, eh bien tout ceci essaye de donner des idées à nos jeunes qui, devant des espoirs, n'ont plus que la mer comme solution, alors que la mer devient un cimetière flottant où de plus en plus des jeunes vont se jeter dans cet océan pour pouvoir mourir. La migration a une dangerosité que les jeunes n'arrivent pas à mesurer. Et c'est là où je voudrais dire aux États que le capital humain est important. Donc, tout ce que je peux dire, si nous ne faisons pas du capital,
priorité
pour former les jeunes.
Oui. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de donner la parole à nos deux autres invités, mais ce sera une prochaine fois. Washington Forum, c'est terminé. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.